Merci. Alors, est-ce que la radio sortie de 19 ans était avec Michel Sahel, la suite de programmes, notamment de l'événement congolais avec Alain Pironde. Moi, je m'arrête ici. Merci à Thérèse Bassoubi qui était à la réalisation, suivie Mathieu de la mise en œuvre de Karine Galimba en micro. Et tout de suite, des réponses au congolais Alain Pironde.
Bonsoir. La CENI a publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Joseph Kabila, candidat numéro 3, vient en tête avec 48,95%. Il est suivi de Pierre Tshisekedi, candidat numéro 11, et qui obtient 32,103%. Ce soir, Dialogue entre Congolais fait le point des résultats provisoires publiés par la CENI. Pour ce faire, nous avons comme invité le professeur Ebitia Mbokolo, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris en France. Il a publié un livre collectif intitulé « Élections démocratiques au Congo, enjeux et perspectives ». Professeur Ebitia Mbokolo, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Emmanuel Kassongo, consultant et formateur en matière électorale. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Kinshasa. Nous allons l'avoir dans un tout petit moment. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081-890-66-68 ou nous écrire par SMS au 081-051-57-68 et par mail, écrivez-nous à tech@radiopatrimoine.net.
Vous le savez, la CENI a publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Joseph Kabila, candidat numéro 3, vient en tête avec 48,95%. Il est suivi de Pierre Tshisekedi, candidat numéro 11, qui obtient 32,33%. Notez que d'après la CENI, ces résultats ne couvrent qu'un taux de compilation de 94,60%. D'autres détails avec vous, Marie-Chantal Lumba.
Selon les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier, Joseph Kabila est le vainqueur de ce scrutin. Il a atteint la majorité simple des voix, comme le stipule la loi électorale, en obtenant 48,95%. Il est suivi par Étienne Tshisekedi, qui a obtenu 32,33%. La troisième place revient à Vital Kamerhe avec 7,74%. Kengo Adodo occupe la quatrième place en obtenant 4,92% du suffrage. Le reste des candidats se partagent, les 5,38%. Dans ce pourcentage restant, Oscar Pachala occupe la dernière position avec 0,40% des voix. Dans l'annonce de Ngoï Mulunda, président de la CENI, il ressort que le taux de participation générale est de 58,8% avec un pic dans la province du Katanga, 69,6%, qui est suivi en deuxième position par le Sud-Kivu, 69,3%. Les électeurs du Nord-Kivu en troisième position ont participé à 63,7%. Le taux le plus bas se situe dans la province du Kasaï occidental, 50,6%, qui est précédé par la province de l'Équateur avec ses 50,8% d'électeurs attendus. Cette élection connaît également son lot de bulletins nuls sur plus de 18 millions de votants. Ces bulletins atteignent 668 750.
Merci Marie-Chantal Lumba. Notez que la CENI va devoir transmettre les procès-verbaux des résultats à la Cour suprême de justice qui a pour rôle de valider ou pas les résultats. Donc c'est durant cette période que les recours en contestation des résultats devront y être introduits. Le président de la CENI a averti les candidats qu'ils ont 2 jours pour introduire leur recours. Professeur Bob Kabamba, vous avez suivi les résultats publiés, provisoires publiés par la CENI, 48,95% pour Joseph Kabila et 32,33% pour Étienne Tshisekedi, avec un taux de participation de 58,81%. Professeur, quelle est votre analyse?
Merci, monsieur Léon, pour les questions. La première réaction à chaud, le taux de participation est au-dessus de 50%. On pourrait craindre que, en plein mois de novembre, avec les conditions climatiques et avec les conditions que nous avons connues le 28 et le 29 novembre, on puisse avoir un taux une participation beaucoup plus moindre que ce qu'a annoncé ce soir la CENI. Ça, c'est une première réaction. Et qui prouve aussi que la population congolaise est mobilisée pour pouvoir répondre à l'attente qu'on entend d'elle sur ces gens. Et donc, deuxième remarque,
professeur,
qui est
au fond
de la confirmation de ce que l'on a déjà dit,
professeur,
qui est, me semble, un vote tout à fait régional, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, avec les candidats qui votent en fonction de leur appartenance à une aire régionale, et notamment l'Est pour Joseph Kabila et Vital Kamerhe, le centre pour Étienne Tshisekedi, et il faudra quand même, dans une certaine mesure, mieux analyser le score qu'a fait Étienne Tshisekedi à l'Équateur et aussi Joseph Kabila dans le Bandundu.
Alors, professeur, par rapport à 2006, je sais que dans les précédentes émissions, vous avez soutenu que le vote resterait purement sociologique. Par rapport à 2006, comment comment vous expliquez que ce soit resté presque la même chose?
Non, notamment ce que l'on voit, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'on analyse un peu plus en détail, en fait, le score surtout. Je sais que ça dans le Grand Ningo, il faut qu'on analyse ça d'une manière politologique. J'imagine que c'est lié aussi au fait que c'est le fait de l'appel de Palou à pouvoir voter le Kabila qui explique cela. Par ailleurs aussi, il faut que les tentatives au score que fait quand même Étienne Tshisekedi dans l'Équateur et qui normalement devait être acquis soit à Jean Mobutu ou à Kengo Adonde. Et donc, comme je l'ai dit, il faudrait que nous affinions de manière politologique un peu plus les différents chiffres qu'on va publier et essayer de mieux analyser pour comprendre ce phénomène. Mais le vote régional, comme on l'a dit, reste une actualité, que ce soit pour les Tshisekedi, mais aussi pour les autres candidats, que ce soit Joseph Kabila et Vital Kamerhe et Kengo Adonde. Pour ne citer que cela, puisque ce sont ceux-là qui sont venus en tête, et ce serait ça.
Professeur, la CENI a signalé, par exemple, 768 468 bulletins nuls. Comment on peut analyser cet aspect?
Donc, ça, c'est tout à fait intéressant, puisque deux choses. Généralement, les bulletins nuls, on analyse comme le fait que, pour la plupart des personnes, ils déplacent quand même pour marquer un signal, pour marquer, pour dire quelque chose, même si le vote est nul. Par ailleurs aussi, en votant nul, parce que ce sont des bulletins qui sont nuls, on peut dire aussi, par ailleurs, qu'il faut quand même qu'il y ait encore une éducation électorale et une sensibilisation beaucoup plus forte pour que les lecteurs puissent vraiment bien poser son choix. Parce que dans les votes nuls, il faut bien se rendre compte, il y a le vote nul, ça veut dire quelqu'un qui ne vote pas, mais aussi quelqu'un qui s'est trompé dans le vote, par exemple, et qui a coché deux fois, en ce moment-là, le bulletin devient nul, ou bien qui a mal exprimé son choix. Et donc, je pense qu'il y a deux aspects de choses-là. Premièrement, il y a peut-être des électeurs qui ont voulu exprimer quelque chose par ce vote nul en ne votant pas, par exemple en votant blanc, ce qui pourrait dire qu'on participe au processus électoral, mais on n'a pas trouvé un candidat qui répond à un projet de société ou bien au choix qui répond au choix des électeurs. Par ailleurs aussi, il est indispensable de pouvoir continuer la sensibilisation et l'éducation électorale pour que le scrutin, parce que le scrutin n'est pas encore terminé, on vient de terminer les présidentielles et les législatives, nous allons avoir les provinciales dans les prochains jours, donc il est impératif de pouvoir continuer ce travail-là auprès de l'électorat.
Professeur, par rapport au taux de participation par province, le Kasaï occidental vient en dernière position avec 50,66% de taux de participation. Comment peut-on également analyser cet aspect?
Il y a plusieurs choses. Hein. Il faut vraiment bien faire en sorte plusieurs choses. Puisque lorsque l'on a suivi le déroulement le 28 novembre, il faut se rendre bien compte qu'il y a eu quand même plusieurs incidents qui se sont passés au Kasaï occidental. Il y a eu des bureaux qui ont été incendiés. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes liés à la logistique. Ce fait que j'ai suivi quand même qu'il y a des électeurs, beaucoup d'électeurs qui se sont déplacés pour aller vers le centre de vote et les bureaux de vote, mais qui n'ont pas trouvé leur nom. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont fait demi-tour, ils n'ont pas participé au vote. J'imagine que c'est lié à ces deux conditions, notamment le fait qu'il y ait des incidents dans les vagues de l'Eurocaspagne occidentale et aussi le fait que les problèmes logistiques avec les problèmes des listes électorales où la plupart des jeunes ne se sont pas nécessairement retrouvés. Et il a fallu attendre quand même dans l'après-midi pour que la CENI annonce en disant même si vous n'êtes pas sur les listes électorales, vous pourrez quand même voter. À partir de ce moment-là, j'imagine que dans toute une série de provinces, il est déjà trop tard pour certaines personnes qui se déplacent très très loin pour pouvoir voter, puisque vous vous rappelez que dans lorsque nous avons mis les centres de vote, il y a des endroits où il a fallu marcher plusieurs heures, des fois même plusieurs, des fois un jour entier pour pouvoir arriver à un centre de vote. Et donc tout ça explique le fait que dans certaines parties du pays, il y a eu un faible taux de participation.
Merci, professeur Bokobamba. Professeur Edika Mbokolo, le taux de participation est de 58,81%. Quelle est votre perception à ce niveau?
Oui, la première impression qu'on pourrait avoir, c'est que les gens se seraient moins déplacés cette fois-ci que en 2006. Je ne crois pas qu'il y ait une désaffection par rapport au suffrage universel. Moi, je partage assez ce qui vient d'être dit par mon collègue Kabamba. C'est que il y a eu beaucoup d'incidents dont Radio Okapi, d'ailleurs, a fait état quotidiennement dès le début des élections. Donc, à la fois les intempéries qui ont secoué certaines régions du pays, à commencer par Kinshasa, où la pluie ne s'est arrêtée que vers 12h30, 13h, et on sait que quand il pleut dans beaucoup de villes et de régions du Congo, ben, on ne se déplace pas parce que c'est très dangereux. Bon, l'autre affaire, c'est que cette histoire de liste électorale où les noms de gens n'apparaissaient pas, il est vrai que la CENI a invité les responsables des bureaux de vote à faire voter quand même les gens, mais nous avons aussi sur les antennes de Radio Okapi entendu beaucoup de gens qui expliquaient que les présidents de ces bureaux, malgré l'appel de la CENI, refusaient pour toutes sortes de raisons de faire voter les gens qui avaient en fait leur carte. Et puis nous avons eu des cas à la fois dramatiques et apparemment drôles où dans le fameux lieu du Bokoboko, de nombreux, la majorité des électeurs a été prié de parcourir 10 km pour aller au lieu de vote. Donc je pense que ce sont davantage les difficultés, les incidents rencontrés lors du déroulement qui expliquent ce taux de 58%, c'est un taux assez respectable pour la plupart des démocraties. Moi, personnellement, j'attendais un peu plus. Donc, c'est davantage les incidents que ce qui serait interprété comme une désaffection des électeurs. Donc, l'impression que nous avons eue sur le terrain d'une mobilisation assez remarquable des électeurs et parfois d'un véritable engouement des électeurs est une impression qui reste vérifiée, puisqu'on sait que lorsque les gens ont été autorisés à rester jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, eh bien, les gens sont restés jusqu'à 22, 23 heures, parfois même, dans certains lieux, nous avons dit, vers 1h, 2h du matin. Donc, résultat, quand même, beaucoup de pays, beaucoup de grandes démocraties, je pense aux États-Unis, je pense à l'Italie, à quelques autres, et beaucoup de pays frères en Afrique, je pense au Mali, qui est un symbole démocratique, ont de taux de participation de beaucoup inférieurs à celui que nous avons connu le 28 novembre dernier.
Professeur Joseph Kabila, on l'a dit, est en tête avec 48,95%, mais on sait aussi que plusieurs observateurs et plusieurs analystes avaient presque soutenu dans leur hypothèse que le président ne serait pas élu à autant de pourcentage. Professeur, comment on peut l'expliquer?
Oui, donc ce pourcentage, évidemment, il est provisoire, puisque le taux de confirmation est de 94%, mais il ne changera pas de beaucoup. Vous savez que dans notre pays, nous avons une faiblesse institutionnelle extrêmement sérieuse, c'est que il n'y a pas de sondage crédible avant les élections. Donc, tant qu'il n'y a pas de sondage, tous les chiffres que l'on avance sont, excusez-moi de le dire ainsi, absolument fantaisistes, parce que on part de l'impression que les gens veulent ceci. Mais on n'a absolument aucune référence, puisque la géographie politique du Congo varie énormément. Il a été rappelé que notre pays est 80 fois plus grand que la Belgique et 4,5 plus grand que la France. Donc, entre des gens qui sont à Bukavu, ceux qui sont à Lodja, ceux qui sont à Matadi, les enjeux locaux, donc ce qui les pousse à voter, sont extrêmement variables. On sait aussi une chose qui est importante, la répartition par sexe, dont on ne parle pas beaucoup. Or, tout au long des dernières années, il y a eu des campagnes extrêmement importantes sur les violences faites aux femmes, et j'imagine que ces campagnes ont peut-être eu des effets sur le vote électoral des femmes. Et puis, une troisième chose, notre pays, Dieu merci, a une démocratie très très vivante. La population du pays est en majorité très jeune. Donc, combien avons-nous gagné de gens qui ont 18 ans aujourd'hui et le droit de vote? Ces gens qui ont 18 ans, mettons 20 ans, sont nés donc en 1990-1991, c'est-à-dire qu'ils ont une mémoire du Congo, une connaissance du présent et du passé du Congo qui est très très limitée dans le temps. Donc certains discours qui sont prononcés, ce n'est pas des discours qui sont efficaces auprès d'eux. Donc de ce point de vue, les 48% et quelques de candidats, je pense, sauf recours auprès de la Cour suprême, moi, ça ne m'étonne pas beaucoup. Je dirais que moi, je m'attendais, dans les discussions informelles que nous avions, à un taux minimum de l'ordre de 40%. Donc, 48%, mon Dieu, c'est bien pour lui.
Merci, professeur Élisée Mbokolo. Professeur Emmanuel Kaskongo, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes consultant et formateur en matière électorale, également professeur des sciences politiques à l'Université de Kinshasa. Professeur, à ce niveau du débat, quelle est votre analyse?
Je constate que finalement, les élections ont été proclamées provisoirement par la CENI. Donc, je souscris à tout ce que mes aînés et collègues viennent soulevé en rapport avec le taux de participation aux élections, en rapport avec les événements préélectoraux qui ont émaillé donc la campagne, les événements qui se sont déroulés dans certaines provinces, la veille, donc disons la matinée même des élections, avec les événements comme ce qu'on a cité dans les Kasaï, ont joué également sur les taux de participation. Mais il y a aussi, en fait, que les élections interviennent au mois de novembre. On sait que les Congolais voyagent souvent entre juillet et septembre. Les cas des boursiers, les cas les hommes d'affaires, tout ce qui va être pour une ou l'autre raison, qui ne peuvent pas rater une opportunité, une mission ou quoi que ce soit pour les élections. Donc, cette fine minorité là aussi a joué à la baisse du taux de participation. Il y a également les comportements des électeurs eux-mêmes, qui ne sont allés voir les noms sur les listes que les jours du vote. Eh bien, il y en a comme ça, qui ont circulé, qui ont eu des difficultés pour retrouver leur nom, et qui se sont fatigués et sont rentrés à la maison. Et bien entendu, ces derniers noms ne figuraient pas sur la liste des listes de vote, qui ont connu des découragements, qui sont retournés carrément à la maison. Mais il y a aussi le fait que, certains membres des bureaux, président des bureaux de la CENI, devaient gérer les bulletins qu'ils avaient en rapport avec les listes d'émagement et qui n'avait pas autorisé tout de suite les noms dont les noms ne figuraient pas sur la liste pour voter directement le matin, soit qu'on devait s'attendre, ou ils attendaient un mot d'ordre. Évidemment, ça a découragé cette mais dans l'ensemble. Le taux de participation n'est pas regrettable, il est bon. Voilà, il y a tous ces éléments. Mais la psychose qui a suivi aussi la proclamation des résultats, finalement, bon, après la proclamation, je crois que les esprits doivent être apaisés et les autres candidats ont légalement le pouvoir de déposer les recours dans les temps légaux.
Professeur Emmanuel Kassongo, comment vous analysez le fait que plusieurs analystes également avaient prédit en ce qui concerne le taux de participation que dans les zones où la sécurité était assez précaire, s'il faut utiliser le mot, telles que les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu n'auraient pas beaucoup un taux de participation élevé, mais on voit par exemple que le Nord Kivu a 63,72% de taux de participation et le Sud Kivu 69,32% de participation et vient d'ailleurs deuxième après le Katanga.
Bien, il y a quelque chose qu'il faut expliquer par rapport à ce point-là. Déjà en 2006, on n'avait pas encore atteint les taux de la sécurisation actuelle, mais les gens sont quand même allés voter. Pour avoir formé les témoins observateurs, j'ai vu l'engouement dans des territoires tels que des points tels que Kichanga, Kanabayonga, Minova, où vraiment la terreur régnait un tout petit peu, mais les gens sont quand même allés voter. Ceci veut dire que très souvent, les jours de vote sont des jours de très haute sécurisation des centres de vote. Il y a une très haute présence militaire, policière, pardon, qui rassure un peu les électeurs, donc même les FDLC ou les Maïmaï qui ont l'habitude de faire des attaques ponctuelles. Et ces jours-là, ils se réservent parce qu'ils savent pas à quel point ils vont trouver les policiers. Finalement, on se rend compte que parfois ce qu'on dit de l'insécurité au Kivu, quand on est ici, c'est quand même des analyses trop exagérées parce que quelle que soit la situation, il y a toujours une activité importante, des activités qui se font. Parce que les gens ont appris à vivre malgré cette situation, ils se sont accommodés un tout petit peu, donc c'est pas les jours du vote qui devaient avoir peur d'aller voter.
Merci, professeur Emmanuel Kassongo. Cette proclamation des résultats suscite bien entendu des réactions. Nous commençons par la majorité présidentielle. Elle exprime sa satisfaction après la victoire de son candidat Joseph Kabila pour la MP. C'est une victoire du peuple. Écoutez son secrétaire général Aubin Minaku, interrogé par Michel Kisundangoy.
C'est une réaction de joie parce que c'est une victoire éclatante du candidat numéro 3, Joseph Kabila, éclatante à plusieurs égards parce que c'est d'abord une victoire du peuple. Le peuple a cru aux élections le 26 novembre, les élections ont eu lieu de façon transparente et crédible. Le peuple congolais a pour la première fois depuis 1960 organisé seul ses propres élections. C'est cela la véritable souveraineté et donc c'est une grande victoire pour le peuple et pour le candidat Joseph Kabila qui a obtenu 48% et plus de voix. Voilà pourquoi je suis suffisamment bien satisfait en tant que secrétaire général de la majorité. C'est la victoire de la démocratie.
De son côté, Étienne Tshisekedi rejette en bloc les résultats publiés par la CENI. Le candidat de l'UDPS, deuxième en lice, considère ces résultats comme une provocation à l'égard du peuple et invite toutefois ses partisans à rester calmes. Écoutez Étienne Tshisekedi.
Les déclarations faites par le président de la CENI, il les considère comme publication des résultats provisoires des élections auxquelles vous vous êtes engagé avec énergie pour enfin mettre notre pays sur la voie du développement. Je considère cette déclaration comme une véritable provocation au peuple congolais. Et je vous invite à rester calme et serein jusqu'au moment où je vous donnerai le mot d'ordre d'agir toujours dans le sens de l'intérêt de notre pays.
Dans cette déclaration média, Étienne Tshisekedi s'est considéré, je cite, président élu de la RDC. Il en appelle notamment à la communauté internationale de prendre les dispositions nécessaires pour trouver la solution à ce problème. De son côté, Vital Kamerhe rejette ses résultats provisoires, il a dit dans un point de presse organisé ce soir. Il déclare que les Congolais viennent d'assister à un simulacre d'élection organisé par le pouvoir qui tient à tout prix à se maintenir en place en utilisant n'importe quel moyen. Il estime que la CENI n'a pas respecté les normes et la loi électorale. Vital Kamerhe estime que les vrais résultats sont contraires à ceux publiés par la CENI. La vérité des urnes, la vraie consacre la victoire à Étienne Tshisekedi, dit-il dans son point de presse. Le président de l'UMC n'entend pas porter le contentieux à la Cour suprême de justice qu'il juge, selon lui, inféodé au pouvoir. Il en appelle plutôt à la communauté internationale à aider les Congolais à clarifier cette situation. Nous aurons plus de détails à cet effet dans nos prochaines éditions. Professeur Bob Kabamba, vous avez suivi toutes ces réactions en bloc. Comment vous les analysez? Professeur Bob Kabamba. Voilà, nous avons tenté de retrouver le professeur. Professeur Elie Mbokolo, vous avez suivi ces réactions. Comment vous les analysez?
Bon, nous prenons acte de ces réactions. Hein. Ce qu'on voit, c'est que il y a une certaine surprise parce que depuis le 28 novembre, les efforts des observateurs à l'intérieur du pays, les efforts de la CENCO, les efforts de la commission des charges, d'une série de personnalités et institutions, étaient orientés vers l'idée de l'acceptation des résultats par les acteurs politiques. Et les uns et les autres avaient déclaré, en effet, leur disponibilité pour les accepter. Bon, maintenant, le numéro 2 dans l'ordre des sorties, Étienne Tshisekedi, et le numéro 3, Vital Kamerhe, déclare rejeter ces résultats. Là, nous sommes en présence d'un véritable problème parce que, comme nous l'avons d'ailleurs déjà dit sur les antennes d'OCAFI, la loi électorale est très claire de ce point de vue. Les recours doivent être portés auprès de la Cour suprême de justice. C'est la seule instance, jusqu'à nouvel ordre, qui peut et qui doit avaliser les recours ou au contraire considérer comme nuls. Refuser de recourir à la Cour suprême, c'est refuser de suivre la voie de l'équité. Et j'avoue que personnellement, je suis un peu étonné qu'on appelle de nouveau la communauté internationale à trancher le débat. Il me semble que la communauté n'a aucun pouvoir légal et d'ailleurs aucune légitimité politique ou morale pour trancher des affaires du Congo. Le Congo est membre de la communauté internationale, donc ses affaires ne peuvent pas être traitées en dehors de lui-même. Je pense que peut-être c'est le moment pour la commission des charges et d'autres de faire en sorte que les recours soient organisés en temps et en heure. J'ai entendu plusieurs représentants des partis dire que eux, ils avaient les données des bureaux de vote. Eh bien, je pense que le moment est venu d'envoyer à la Cour suprême ces données pour être confrontés avec les données de la CENI. Et s'il y avait divorce évident et justification des données des partis, à ce moment-là, on verrait s'il y a lieu de refaire les élections. Il me semble que demander à la communauté internationale de trancher un problème dans lequel elle n'est pas partie prenante d'aucune manière, ça me semble être une procédure un peu étrange pour régler une affaire qui relève de la souveraineté du Congo et des Congolais.
Professeur Bob Kabamba, vous avez suivi le professeur Elisha Mbokolo qui revenait sur le fait que plusieurs missions diplomatiques, confessions religieuses, sociétés civiles, ainsi de suite, ont beaucoup milité pour l'acceptation des résultats au niveau des différents candidats. Visiblement, ces missions ont échoué à entendre les différentes réactions.
Je partage le point de vue donc de professeur Elisha sur son analyse par rapport à la réaction des uns et des autres. Il est tout à fait clair que tout ça, quand on accepte les règles du jeu, quand les différents acteurs acceptent les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on va aux élections, ça veut dire aussi qu'on accepte toute la procédure et tout ce qui sous-tend les élections. L'acte de voter, n'est-ce pas, l'élection ne se termine pas uniquement à l'acte de voter, à la proclamation des résultats. Il est provisoire. Il y a toute une procédure qui a été mise en place, ce qui permet justement de pouvoir garantir toute une série de droits. De droits des candidats, mais aussi des électeurs qui peuvent encore se plaindre pour toute une série de choses à la Cour suprême telle que la loi le définit. Et la plupart des candidats, j'imagine, quand ils ont accepté effectivement de concourir, c'est pour en acceptant effectivement ces différentes procédures. De ce fait, la proclamation des résultats provisoires vient d'être faite par la CENI. Alors il revient maintenant à la Cour suprême de reprendre la main pour trancher les différents litiges au niveau du contentieux. Alors, trancher les litiges, je pense que si la plupart des partis politiques sont bien organisés, donc ils auront, de mon point de vue, la plupart auront des PV, des compilations qui sont données dans les bureaux de compilation. Il s'agira alors de vérifier de manière très claire, de manière aussi précise, entre ce qu'il y a sur les différents PV et les résultats publiés par la CENI. Par ailleurs aussi, la Cour suprême, qui tient le rôle de la Cour constitutionnelle, j'imagine, fera une analyse et une étude avec les différentes questions qui pourraient survenir. Par ailleurs aussi, je rassure l'attention sur le fait que normalement, lorsque on est témoin d'un parti politique ou d'un candidat à l'élection présidentielle dans un bureau de compilation ou de vote des dépouillements, lorsque l'on constate qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, lorsqu'on a des soupçons de fraude ou qu'est-ce encore, il revient au candidat, au témoin, de pouvoir le mentionner de manière très claire sur le procès-verbal, et quitte à pouvoir utiliser ces procès-verbal comme preuve dans le cadre éventuel d'une contestation au niveau du contentieux électoral, au niveau de la Cour suprême. Alors ici aussi, l'appel à la communauté internationale, j'imagine, je vais encore faire référence à une autre émission que nous avons déjà eue, où l'appel à la communauté internationale ne semblait pas être de mise. Et là, à nouveau, on revient à la même question, comme on l'avait déjà dit la fois passée, c'est que le Congolais, par un moment, est des fois contradictoire. Des fois, il rejette cette communauté internationale qui vient s'initier dans les affaires congolaises et par moments, ce sont ces mêmes acteurs qui sollicitent à nouveau cette communauté internationale pour résoudre des questions d'ordre interne. De ce point de vue-là, donc, on a toujours cette contradiction-là que l'on a fait, et ça depuis quand même quelques temps. Il y a aussi quand même d'autres mécanismes qui existent, qui ont été prévus. C'est toute la médiation, comme je l'ai expliqué la fois passée, qu'il y a quand même beaucoup de médiateurs qui sont là présents, qui peuvent faire une médiation de manière très claire, pour pouvoir harmoniser les points de vue des uns et des autres. J'imagine par exemple les points qui peuvent être soulevés, c'est notamment la question du délai, le délai dans lequel les différents candidats peuvent déposer leur requête auprès de la Cour suprême parce qu'ils ont besoin de preuves, parce que les preuves ont du mal à arriver jusqu'à Kinshasa dans les meilleurs délais, puisque les compilations, il y en a des endroits où les compilations ont été terminées tardivement. De ce fait, donc, il y a moyen de demander peut-être en disant, bah oui, il est impossible que la Cour puisse traiter les différents recours dans les temps impartis, c'est-à-dire 7 jours, que l'on puisse aménager de façon à ce que tout cela soit traité en toute transparence.
Professeur Emmanuel Kassongo, le professeur Elisha disait qu'on était là devant un véritable problème. Il y a des candidats, c'est le cas de Vital Kamerhe et Clem Tshisekedi, qui n'ont pas confiance en la Cour suprême de justice auprès de laquelle ils devraient déposer des recours. Le professeur Bob Kabamba revient comme solution, propose comme solution une sorte de médiation. Quelle est votre analyse?
Bon, d'abord, moi je prends acte des déclarations des candidats. aussi bien du secrétaire général de l'ANP qui se réjouit de la victoire de son candidat, du parti, qui est finalement en principe une victoire nationale, parce que c'est comme ça toujours, même dans les football où les femmes fair play est sorti. Donc à ce titre-là, on prend acte, mais on prend aussi acte des candidats qui contestent les résultats. Mais vous savez qu'en matière électorale, il y a trois étapes ou trois types d'opérations. Les opérations pré-électorales, qui ont déjà eu lieu, enrôlement et tout ça. Et les opérations électorales, qui consistent essentiellement à l'élection et au comptage et manuel des bulletins, à l'élaboration des PV, et finalement les opérations post-électorales qui prennent notamment en compte les transports des bulletins de vote, les transports des PV, mais essentiellement les recours que doivent faire les perdants qu'ils doivent déposer à la Cour suprême de justice. Et nous sommes là devant une matière vraiment d'ordre juridique et qui doit répondre à un droit interne, non au droit international. Et donc, moi je pense que la légalité doit être respectée. Autant la Cour suprême n'a pas le droit de rejeter les recours d'un candidat, autant les candidats doivent respecter, comme l'a dit le professeur Relika, le professeur Bob aussi, respecter les règles du jeu, déposer, si possible, les résultats qu'ils détiennent, à confronter avec la compilation de la CENI, parce qu'il faut noter quand même que la même communauté internationale dont il est question a donné son point de vue sur l'organisation des élections. J'ai oui entendre moi que ces élections étaient bien organisées, libres et transparentes. Je pense que cette même transparence s'est poursuivie jusque dans les bureaux de vote, notamment à Kinshasa. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas, je n'ai pas été ailleurs. Au moins, les témoins en surnombre sont restés dans les bureaux de vote jusqu'au comptage manuel des voix et jusqu'à l'affichage des PV. Et donc, si telle a été la situation ailleurs, je suppose que les témoins des candidats qui contestent les résultats disposent des éléments à mettre à la disposition des candidats, parce que les candidats ne se sont pas déplacés dans tous les bureaux. Si ça n'a pas été le cas, on peut s'imaginer quand même déjà la difficulté d'élaboration des recours dignes de son nom. Bon, il faut aussi prendre les temps, mais c'est la loi, elle a été adoptée ainsi, deux jours, mais évidemment, depuis les votes jusqu'à ces jours, c'est pas deux jours, les copies des PV que détiendraient, les informations des copies des PV que détiendraient les témoins, serait déjà parvenu aux états-majors des partis politiques. Parce qu'il y a toujours une relation entre les témoins et l'état-major des partis politiques pour communiquer par téléphone, par Internet ou par d'autres moyens les PV des résultats. Et donc, à ce titre, on peut espérer qu'ils ont déjà élaboré essentiellement des dossiers qui vont faire les paquets de leurs recours et c'est dans leurs droits et c'est ça l'état des droits que tout le monde recherche.
Merci. Professeur Bob Kabamba, je sais signaler qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Je vais vous demander des réponses courtes et précises. Professeur, le délai dans lequel il faudrait déposer les requêtes enfin pratiquement ce week-end, cela ne va-t-il pas poser des problèmes d'interprétation comme ce fut le cas dans l'affaire entre UDPS et PPRD?
Il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'erreur matérielle qui court dans les deux jours
pour les 48 heures ici. Et donc, normalement, la Cour suprême, les questions du contentieux de contestation pourront être reçues à partir donc de lundi. À partir de lundi, que les différents candidats pourraient déposer leur recours à la Cour suprême. J'imagine que la Cour suprême elle est déjà quand même prête et bien outillée pour pouvoir traiter avec diligence la plupart de ces doléances. Par ailleurs aussi, c'est quand même hyper important que ces recours se fassent en séance publique et qu'il y a aussi un rôle éducatif en ayant cette possibilité que les gens, les électeurs, les différents candidats puissent assister même les autres électeurs qui peuvent assister aussi à ces différentes sessions des différentes chambres qui vont traiter les différents recours, ça pourrait aussi être un élément important en termes de sensibilisation par rapport à la population d'un processus électoral qui est hyper important. On peut aussi espérer que suite à la publication de ces résultats, cela ne va pas déboucher sur des violences qui vont plonger le Congo dans des situations que le Congo a connues il y a quelques années et que l'on pense que ces violences sont derrière nous.
Professeur Elika, le professeur Bob Kabamba dit que les 48 heures pourraient déposer lundi, mais qu'est-ce qu'il faut pour ne pas tomber dans ce débat juridique? 48 heures, ça expire dimanche, et pourtant dimanche, l'administration ne fonctionne pas. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, on peut penser en effet que ce sont des jours ouvrables dont il faut tenir compte. On sait que le samedi, chez nous, il y a le salon Go et puis finalement les bureaux ne vont guère au-delà de midi. Donc il faudrait une mesure pour faire en sorte que ce soit deux jours ouvrables, ce qui nous conduit en effet à lundi et à mardi. Mais comme le disait Bokabama, j'imagine que... Depuis plus d'une semaine aujourd'hui que les élections ont eu lieu, j'imagine que les états-majors ont déjà réuni une grande partie des arguments et des preuves qu'ils entendent déposer auprès des juridictions compétentes. Il y a vraiment lieu de faire ici une supplication à l'égard de nos responsables politiques. Il faut éviter absolument que le Congo ne plonge de nouveau dans des violences, des pillages, des meurtres qui non seulement vont ruiner le crédit et l'image du pays, mais qui vont certainement nous faire reculer encore en arrière de plusieurs années, si l'on sait que depuis 1991, depuis ces fameux pillages, le Congo n'a pas encore retrouvé le niveau et le dynamisme économique qui était le sien. Donc il faut de la responsabilité et un sens national pour que nous sortions de cette phase et attendions les autres élections qui vont commencer bientôt.
Merci. Professeur Emmanuel Kasongo, il faut déjà conclure, je vous en prie, par un appel à l'apaisement.
Oui, effectivement, les Congolais sont essentiellement croyants. Les Congolais aiment la paix. Je pense que on va lui donner cette occasion de vivre la paix et de l'esprit plairait après les élections. Parce que les élections ne doivent pas être une occasion de plaire ou des enterrements des morts. Voilà quoi. Donc, merci. Moi je pense que ça se passe dans la paix et dans la légalité.
Merci. Professeur Bob Kabamba, très brève conclusion, je vous en prie.
Donc, on peut souhaiter, donc, comme je l'ai dit, que la période de recours commence lundi, donc les candidats ont encore cette possibilité-là. Je pense que vraiment, sincèrement, pour le bien-être du Congo, il est important de pouvoir utiliser tous les moyens légaux qui existent pour permettre à ce que le droit triomphe, que la politique aussi, le politique aussi triomphe à RDC, et que la RDC retrouve la place qui est la sienne sur la scène internationale.
Merci. Professeur Elika Mbokolo, juste un mot pour conclure.
J'allais dire prions pour la paix et que le gagnant soit un gagnant raisonnable et modeste et le perdant un bon perdant. Merci et mes salutations à mes deux collègues à Radio Okapi.
Merci professeur Elika, merci à tous de nous avoir suivis. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Pierrot et la Mégie, Marie-Chantal Lumba qui m'ont aidé à préparer cette émission, à Sylvain Matundu qui était à la technique, coordination et présentation, à l'aéro Moussis. Au revoir. Thank you.
I'm going to go to the next one.